Accent d'Europe, Catherine Roland.
Wash out jars, cans and other recyclables so they're clean.
Yeah.
That's a step as vital as using less polystyrene.
Yeah.
Bonjour à tous. Réduction de la consommation, recyclage, réutilisation. Les principes de l'économie circulaire sont anciens. Face à la dégradation de l'environnement, ils ont aujourd'hui le vent en poupe. Pour l'ONU, le monde peut éviter les pires effets du changement climatique en passant à une économie circulaire. Au niveau européen, Jyrki Katainen, le vice-président de la commission chargée de l'emploi et de l'investissement, estime que les facteurs de croissance dans les prochaines années seront le paquet économie circulaire, intelligence artificielle. Les Pays-Bas l'ont bien compris et sont très en avance en la matière. Reportage à Utrecht de Juliette Rangeval.
L'économie circulaire, c'est simple comme ce magasin d'articles d'occasion. Quelques bibliothèques en bois blanc montées près de la cantine du campus de l'université d'Utrecht. On vient, on fouille et on se sert.
Beaucoup d'étudiants venus pour un semestre d'échange laissent en partant des objets qui ne rentrent pas dans leur valise. Nous avons découvert des vases, des draps, des ustensiles de cuisine.
Et même quelques paires de baskets de marque flambant neuves. C'est un projet monté par des étudiants à travers le Green Office de l'université. George Parsons en fait partie. Alors bien sûr, cela pourrait être n'importe quelle brocante, n'importe quelle friperie, mais cette drôle de boutique a une particularité. Tout est gratuit.
Les gens sont souvent surpris. En fait, la semaine dernière, j'en ai eu un qui m'a demandé « Je peux vraiment prendre ça gratuitement ?» alors que ça leur coûterait 15 ou 20 euros dans un magasin du centre-ville. Et que c'est facile, juste en venant écouter un cours ou suivre un séminaire, un arrêt rapide à la cantine et ils ont un nouveau vase pour chez eux, un nouveau pot de fleurs pour leur chambre d'étudiants.
Pour Jana Einöder, une jeune Allemande qui étudie la biologie à Utrecht, ce meublé d'occasion, ça permet de faire de grosses économies. Et puis c'est plus que ça.
C'est aussi un super sentiment de ne pas posséder les choses. Comme à Utrecht, il y a beaucoup de magasins de seconde main. J'ai beaucoup d'articles d'occasion. Ma table, mes chaises, oui, c'est certain, je crois que je n'ai rien acheté de neuf. Hop, peut-être une lampe.
Réduire sa consommation, réutiliser, ce sont deux principes de l'économie circulaire. Pour avoir un véritable impact sur l'environnement, ces principes doivent être appliqués par un maximum de consommateurs. Mais pas que. L'industrie a un rôle à jouer. Une initiative a vu le jour à Rotterdam en 2006. Cirkelstad, la ville cercle, un partenariat entre les acteurs importants du secteur de la construction pour permettre de réinjecter un maximum de matériaux issus de démolition dans le circuit. En 13 ans, le projet s'est considérablement développé, notamment à Utrecht. Witt Skyper est responsable de programme à Cirkelstad. Il s'occupe également des affaires internationales.
En ce moment, 16 municipalités ont mis en place une communauté de pratique, comme nous les appelons. Et nous voyons le gouvernement de La Haye et les provinces s'y intéresser aussi. Ils voient que cela a de la valeur, qu'il existe un besoin. Et la législation se met en place pour qu'en 2030, 2050, on soit totalement circulaire. L'idée, c'est de commencer à l'échelon très local et de comprendre comment l'économie, les matériaux de seconde main, tout cela s'organise au niveau de la ville et de regarder ensuite si au niveau régional ou national ou même international, le problème peut être résolu. Mais l'intention, c'est de partir d'un cercle local, s'organiser à ce niveau, mais aussi voir les conséquences de ce qu'on produit.
Et petit à petit, des bâtiments circulaires se construisent dans le pays.
Ici, il y a la Greenhouse. Je pense qu'au total, il y a entre 10, 20 expériences menées sur des bâtiments circulaires. C'est un début. Il y a la construction couplée avec la réduction d'énergie. Ça fait complètement partie de l'économie circulaire. Le monde idéal n'existe pas encore, mais nous apprenons beaucoup. Aujourd'hui, on est obligé de recycler parce que nous n'agissons pas de manière appropriée. Mais si nous concevons que nous repensons différemment, alors vous verrez qu'on obtiendra des matériaux qui gardent leur valeur et qu'on peut réutiliser dans la construction.
Cap sur le bâtiment d'à côté, cette greenhouse, un restaurant ouvert il y a 10 mois selon les principes de l'économie circulaire, tout près de la gare. Des murs de verre, un sol en pavé récupéré après des travaux de voirie, des fauteuils en laine recyclés et une grande serre sur le toit.
Lemon thyme. Du thym citron.
Et comment allez-vous l'utiliser?
Je vais faire un
un jus au thym citron.
Peter, le chef, est monté récolter du thym citron. C'est l'un des aromates qui poussent ici, à l'abri du froid, de l'hiver néerlandais. Toutes les semaines, une start-up d'Amsterdam vient entretenir les cultures, amener des plantes fraîches. Et cette semaine, c'est Kelly Diebel qui a fait le voyage.
La beauté, mais aussi le défi de ce projet, c'est que beaucoup de matériaux sont upcyclés. En fait, les panneaux de verre que vous voyez ici ont été récupérés sur un ancien bâtiment qui se trouvait à côté. Quand ils ont été mis en place pour devenir la façade du bâtiment et l'extérieur de cette serre, ce n'était pas très bien isolé. Très froid l'hiver et plutôt chaud l'été. Alors, il a fallu choisir des cultures qui pouvaient supporter ces changements de température.
Construire un bâtiment sur les principes de l'économie circulaire demande quelques adaptations. L'autre grand défi, c'est la rentabilité. Bas van Halen est le responsable du restaurant.
C'est très important. Il faut être rentable pour montrer aux gens qu'on n'a pas besoin de subventions, de l'argent du gouvernement pour faire tourner notre entreprise. Nous voulons montrer que si on fait les bons choix, on peut avoir une vraie affaire, on peut gagner de l'argent. C'est très important et d'autres personnes pourront faire la même chose. Alors on doit faire des choix. Comment peut-on recycler, réutiliser ou réduire notre consommation de matériaux afin de préserver notre façon de vivre et celle des générations futures.
Et pour bien faire passer le message, les clients peuvent repartir avec un petit souvenir.
C'est notre machine à compost, tous les déchets organiques de la cuisine, mais aussi les restes de nos clients. Nous jetons ça dans notre machine à composter. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de doggy bag? Parce qu'il faut l'emballer et ça fait d'autres déchets. Alors on dit, finissez votre assiette. Et si vous ne finissez pas, on le met à composter. On en fait un nouveau matériau. On donne ça à nos clients, à emporter, pour les éduquer. Vous réutilisez, c'est le principe du restaurant circulaire.
Comme la morale d'un conte philosophique, il faut cultiver notre jardin.
Autre défi pour les humains, le zéro déchet ou zéro gaspille. Il faut savoir que chaque année, un Européen produit en moyenne 600 kilos de déchets. Un Français, c'est 573 kilos, soit deux fois plus qu'il y a 40 ans. Alors, dans un souci écologique, un défi est né dans plusieurs villes à l'initiative des mairies. Le défi zéro déchet, donc, les familles participent volontairement, comme à Lille, Lyon, Nantes, Amiens ou encore Roubaix. L'idée est d'essayer d'apprendre à réduire au maximum ces déchets, de les trier et d'ainsi réfléchir à sa consommation. Lise Verbeck s'est donc rendue dans le nord de la France voir ce qui s'y passait.
Devant cette grande maison de ville, à deux pas du centre d'Amiens, les éboueurs ne s'arrêtent plus depuis quelques mois. Il n'y a plus rien à ramasser.
Bonjour.
Christine a entraîné sa famille, son mari et ses trois filles dans le défi zéro gaspille. Épaulée par une association, la famille est passée de 29 kilos d'ordures ménagères par mois à 900 grammes. Et pour cela, il a fallu changer ses habitudes.
Moi, je me suis mis au vrac. Je réutilise toutes les semaines les mêmes sacs en papier en attendant de faire des sacs en tissu. Mais je vais avec mes sacs en papier, j'achète les aliments directement dans mon sac et j'achète la quantité que je souhaite dans mon contenant.
Christine a aussi appris à faire sa propre lessive et s'est remise à faire le marché pour éviter tout suremballage dans les supermarchés. Et la clé de ses poubelles légères se trouve aussi dans son jardin.
Voilà, visite du composteur. Donc voilà, on a un composteur en bois qui est plutôt plus joli que la moyenne et plutôt, voilà, donc il a une grande capacité.
Et donc vous le remuez.
Et on le remue régulièrement. Et en fait, on n'a pour l'instant encore jamais récupéré de terre, mais il ne monte plus. Donc ça veut dire que la terre se fait, que le compost fait son travail.
Et Christine a réussi à convaincre ses filles, notamment Mathilde, 14 ans.
Au début, je pensais que c'était une perte de temps et que ça allait un peu rien changer. Après, quand on a vu le poids qu'on pesait de déchets, notamment la poubelle noire, je me suis dit qu'on pouvait vraiment les réduire, etc. Et aujourd'hui, quand on fait des courses en vrac, ça me choque plus quand on met des trucs dans les bocaux, alors qu'avant, je trouvais ça bizarre. Voilà,
un bocal de riz. Moi, je me suis rendu compte au début du défi qu'à un moment, je devenais un peu trop intégriste du truc, quoi. Quand Mathilde, elle est née en mois de février, donc au début du défi, elle a fêté son anniversaire avec une copine, et donc ça se passait ici. La maman de la copine, elle arrivait avec des tas de trucs emballés, des bouteilles de soda, des trucs de bonbons. J'en étais malade, elle venait de mettre ça dans la poubelle, quoi. Mais en fait, après, il y a un moment où on commence à devenir un peu hystérique de ça, donc il faut se dire non, on tend vers quelque chose, mais il faut continuer à vivre. Et c'est vrai qu'il y a des, voilà, les bonbons, ça s'achète en vrac, mais Typiquement, ma copine, elle comprenait pas forcément la démarche. Donc, c'est vrai que si je lui avais dit on va aller acheter les bonbons en vrac, je suis pas sûre qu'elle ait adhéré.
Tournez à droite sur avenue du Général de Gaulle.
Ce défi zéro gaspille que s'est lancé la famille de Christine, d'autres l'ont fait et le font encore. À Roubaix, ville précurseur en France en matière de réduction des déchets depuis 2014, plus de 400 familles s'y sont mises. La ville du Nord est devenue le symbole du zéro déchet. Les crèches, les cantines scolaires et même les commerçants s'y mettent. Une trentaine a le label zéro déchet, comme Émilie Vanet, qui gère la librairie Les Lisières.
On travaille beaucoup sur les emballages cadeaux. L'idée étant de ne pas racheter d'emballages cadeaux comme on trouve dans les commerces, mais plutôt de profiter de tous les lots d'affiches que l'on a dans la librairie. Donc on a beaucoup d'affiches d'éditeurs, de publicités, et en fait aussi toutes les affiches culturelles qui font des promotions pour des spectacles sont super chouettes. Donc on a pendant longtemps fait nos emballages dedans. Et cette année, on s'est lancé dans le furoshiki. Donc, on propose des emballages en tissu pour nos clients.
Par exemple, ça, c'est un... On prend le tissu et ensuite, on y va.
Alors, hop. Donc, vous devez le mettre en diagonale, comme ça, dans le carré. On plie un côté, on fait un nœud.
On a fait un appel à dons à nos clients, ce qui fait aussi que ça nous a fait des chouettes moments d'échange. On a à la fois des gens qui nous ramènent des choses très simples, comme voilà une couette, et on a des dames qui font de la couture et qui nous ramènent des chutes.
Trier, récupérer, réutiliser, certains vont même encore plus loin dans la démarche. L'association Zero Waste a lancé le défi Rien de Neuf cette année. Emma y participe et essaie de ne rien acheter de nouveau pour changer sa manière de consommer.
Avant même toute chose, on va se poser la question de savoir si on a vraiment besoin d'un produit ou de quelque chose à acheter, en fait. Parce que des fois, c'est juste une envie passagère ou un besoin temporaire. Donc, il y a d'autres alternatives. On peut acheter d'occasion. Ça permet justement une seconde vie, ça permet d'utiliser ces matières qui ont déjà été puisées en fait de la planète.
Et ce n'est pas facile tous les jours pour Emma, mais aussi Émilie ou encore Christine de respecter leurs engagements et leurs défis. Mais toutes sont d'accord sur le fait qu'il faut s'y mettre par étapes, tout doucement, à son échelle, sans culpabiliser quand un écart est fait.
Et c'est dans la même perspective que l'Autriche a décidé d'interdire les sacs plastiques à partir de 2020. Elle emboîte ainsi le pas à d'autres pays comme le Bangladesh, qui était le premier, la Suède ou la France, qui veulent endiguer la marée de déchets plastiques que nous produisons. Le pays alpin va même plus loin que l'Union européenne avec sa directive sur les pailles et les gobelets, Céline Béal.
Début janvier, le gouvernement autrichien a invité grand nombre d'experts et de responsables de la politique et de l'économie à un sommet sur le plastique. À cette occasion, le chancelier Sébastien Kurz et deux de ses ministres se sont prononcés avec emphase contre la société du gaspillage. À partir de l'année prochaine, les sacs en plastique seront interdits dans le commerce. Dans cette petite république alpine, ils représentent quand même 5 à 7 000 tonnes de déchets chaque année. En outre, l'Autriche veut s'en prendre à une autre habitude du commerce, les emballages. Les produits ne devraient plus être emmaillotés dans plusieurs couches protectrices. Le pouvoir veut une réduction d'au moins 20% jusqu'à 2025. Mais sur ce point, un plan d'action manque encore. Qu'importe, le combat contre le plastique jetable est très populaire en Autriche. Un sondage effectué en décembre indique que près de 90% des personnes interrogées étaient favorables au bannissement des sacs. Et il est salué par les ONG environnementales. Ainsi, l'association Global 2000 y voit un symbole important. Mais attention, le gouvernement n'a pas interdit les matières dites bioplastiques, donc des sachets produits à partir de fécules de pommes de terre ou d'amidon de maïs par exemple. Or, eux aussi ont un mauvais bilan carbone. Il faudrait toujours leur préférer des cabas ou des tote bags en tissu, selon l'association. Surtout, elle cite un chiffre très intéressant. Ces 5 à 7 000 tonnes de déchets que représentent les sachets ne correspondent en fait qu'à 2% du plastique jeté chaque année. Il serait maintenant très important de s'en prendre aux bouteilles PET, ces bouteilles utilisées par Coca-Cola, Pepsi ou Nestlé et qu'on jette après une ou deux utilisations. Global 2000 milite pour qu'elles soient consignées. Actuellement, elles sont certes soumises au tri sélectif, sauf que les bouteilles triées ne sont pas toujours recyclées. Un dysfonctionnement qui ne concerne d'ailleurs pas seulement l'Autriche.
Certains guides touristiques les décrivent comme les plus belles ruines du monde antique qui méritent vraiment le détour. Le site d'Aphrodisia, situé dans l'actuelle Turquie, attire de plus en plus de visiteurs depuis qu'il a rejoint la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2017. Anand Lauer nous emmène dans cette cité dédiée à Aphrodite, la déesse de l'amour.
Ce qui frappe d'abord sur le site immense, c'est le calme presque intimiste au milieu de tout ce marbre éclatant au soleil. Quel contraste quand on y pense avec le vacarme d'une grande cité qui fut, il y a quelques millénaires, école à ciel ouvert pour les meilleurs tailleurs de pierre. Les ruines d'Aphrodisias sont situées sur un haut plateau de l'Anatolie occidentale, à environ 230 km au sud d'Izmir, aux confins nord-est d'une région qu'on appelait autrefois la Carie. Bien qu'elle vit le jour il y a près de 7000 ans, c'est aux deux premiers siècles de l'Empire romain que la cité connut sa plus grande prospérité. Installée à proximité d'une carrière de marbre, Aphrodisias abritait à l'époque une prestigieuse école de sculpture, dont les artistes œuvrèrent dans tout l'Empire, certains sculpteurs gravant même leur nom dans la pierre. On retrouve leur signature, par exemple, sur les sublimes statues de l'empereur Hadrien dans sa villa de Tivoli près de Rome. Par chance, si l'on peut dire, des tremblements de terre suivis de coulées de boue ont enfoui sous terre les ruines d'Aphrodisias. Pendant des siècles, ces monuments ont donc été préservés de l'usure, des pilleurs, mais aussi des voyageurs occidentaux qui, pendant ce temps, se servaient copieusement dans d'autres sites voisins comme Pergame ou Éphèse. Les fouilles d'Aphrodisias ont commencé tardivement dans les années 1960 et elles sont loin d'être achevées. La visite se fait d'ailleurs au son discret des outils des archéologues. On admire à Aphrodisias des monuments qu'on ne voit pas ailleurs. Le Tétrapylon, porte monumentale, le Sébastéion, temple dédié au culte des empereurs romains, le stade datant du 1er siècle après notre ère et qui, avec ses 262 mètres de long, est le plus grand de toute la Turquie, l'Odéon, le théâtre ou encore l'impressionnant temple d'Aphrodite. Le musée à côté du site renferme une superbe collection de sculptures. Ces vestiges du passé, s'ils restent peu visités comparés à d'autres sites archéologiques turcs plus célèbres, attirent tout de même chaque année de plus en plus de visiteurs, à tel point que les autorités locales ont décidé en 2018 de renforcer la sécurité. Une soixantaine de caméras, dont 4 caméras thermiques, surveillent en permanence l'ancienne cité d'Aphrodite, appuyées par des drones de la gendarmerie locale. Rien de très romantique, mais des précautions nécessaires, alors que les archéologues déterrent chaque jour de nouveaux trésors.
Just a minute. The leader of the band wants to show you how well they can play. Let's listen.
Avec nous, Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Catherine.
Alors, vous avez choisi ce vendredi de nous parler d'une chanteuse originaire du Zimbabwe, aujourd'hui installée aux Pays-Bas.
Eh oui, des pans entiers du monde, comme il va et comme il sonne. C'est ce qu'on retrouve au fil du deuxième album de la chanteuse Rina Mushonga, dont le parcours est à lui seul porteur de promesses. Elle est née, vous l'avez dit, et a grandi à Harare, au Zimbabwe, avant de s'installer à Amsterdam, aux Pays-Bas, puis de trouver à Peckham, au sud de Londres, le quartier général rêvé. C'est dans ce quartier multiculturel et dynamique que Rina Mushonga a écrit et enregistré l'essentiel de In a Galaxy, un album traversé par des sonorités afro-pop et R&B, mais aussi par des thématiques très contemporaines, avec des chansons inspirées notamment par les émeutes de Charlottesville aux États-Unis en 2017, ou encore les incompréhensions récurrentes que le mouvement MeToo provoque chez certains hommes. C'est le sujet du morceau Narcisco que je vous propose d'entendre.
Merci de nous avoir suivis à la réalisation et à la mise en onde Ludivine Amado. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur notre page Facebook.